Direction pour l'âme, 1661 à l'âme qui a longtemps voyagé dans la lettre astérisque mais qui n'a pas encore été mis en connaissance de la puissance, ni guère même entrée dans le ministère de la vie sans fin, qui est le ministère de l'Évangile, afin qu'elle sente la source et vienne y boire des eaux vives. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matt 11, 28-30, astérisque Pennington s'adresse à ceux qui, par le passé, ont pensé que l'étude des Écritures, la lettre, était la voie de la croissance dans le Seigneur et de la vie éternelle. Il les appelle à aller directement au Seigneur, à venir à lui, afin qu'ils puissent trouver la vie supérieure de Dieu. De douces méditations ont jailli dans mon cœur au sujet de ce passage de l'Écriture, avec des soupirs de l'esprit pour, et des élans de compassion vers, ceux qui peinent et sont chargés, que je me sens poussé à communiquer. 1. Dans l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut, se trouve le repos de l'âme. C'est la doctrine du royaume dans laquelle il y a vie, joie, paix et repos éternel pour l'âme en Dieu. La loi avait l'ombre des biens à venir, mais sous elle on ne possédait pas les biens eux-mêmes, il n'y avait qu'un labeur pour les atteindre, et un deuil et un fardeau à cause du manque. Mais dans l'Évangile se trouve la substance, la jouissance, la vie et l'immortalité y sont mises en lumière, et l'on y reçoit une entrée dans le royaume éternel, où elles sont senties possédées et goûtées. Le royaume des cieux est proche, disait le précurseur. Il est venu, disait le Messie, et en lui se trouve justice, paix et joie dans le pur esprit de vie. 2. C'est la volonté du roi des saints que son peuple jouisse du repos et de la paix de son évangile. Il ne veut pas qu'ils soient toujours peinants et chargés, comme sous la loi, mais il veut que leurs âmes sentent et goûtent l'aisance, la liberté, la douceur, la pure puissance et le repos éternel de sa vie. L'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux doux, la liberté aux captifs, la vie aux morts, l'ouverture de la prison aux prisonniers de l'espérance, le bandage des cœurs brisés, l'onction d'huile sur les blessés. Et il veut que les âmes de son peuple jouissent de ce qu'il est venu leur apporter. 3. Christ a clairement tracé le chemin de son repos pour toute âme lasse et haletante, chemin dans lequel celui qui marche ne peut se tromper. Il a dressé, il a rendu la voie claire dans l'Évangile, si claire que le voyageur, fût-il un insensé, en demeurant dans la lumière de l'Évangile, ne peut errer au-dedans ni manquer le bienheureux repos qu'il offre. Comment cela ? Venez à moi, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Celui qui marche dans ce chemin ne peut le manquer, le repos en est au bout, non, le repos est en lui, astérisque, celui qui croit entre dans le repos. La vraie foi, la foi qui demeure dans la puissance et qui est donnée à la naissance qui est née d'en haut, est la substance du repos espéré, et un vrai goût et quelques jouissances en sont données à celui qui croit véritablement. Astérisque, à mesure que le Seigneur ôte vos désirs pour le monde, vous vous reposez de la poursuite du monde, avec un goût croissant de ce repos. Mais jusqu'au terme du voyage, lorsque votre esprit a été détruit, lorsque vous ne vous inquiétez plus et ne pensez plus, lorsque vous ne suivez plus du tout votre propre volonté, et lorsque vous ne luttez plus contre la convoitise, l'orgueil, la colère, jusque-là vous n'êtes pas vraiment entré dans le repos. Celui qui croit est sauvé, mais il n'est pas sauvé au commencement de la foi. Celui qui croit entre dans le repos, mais il n'est pas entré dans le plein repos au commencement de la foi. La propre description par Pennington de son long et frustrant voyage est un témoignage retentissant de l'absence de son repos, jusqu'à ce qu'il arrive dans le royaume, aux chrétientés. Ne soyez pas à l'aise dans vos péchés, en pensant que seule la croyance en Jésus est nécessaire, levez-vous et partez, car ceci n'est pas votre repos. Parce que c'est souillé, cela vous détruira, oui, d'une destruction totale. Mi 2.10. Efforçons-nous donc avec diligence de toutes nos forces d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans le même genre d'incrédulité et la désobéissance qui en résulte. I 4.11. 4. Le repos était autrefois senti et goûté, lorsque l'Évangile était connu en puissance. Les croyants, au premier jour de l'Évangile, avant que la nuit ne surprenne cette glorieuse dispensation, trouvèrent la paix et la joie dans la foi, oui, ils pouvaient se réjouir dans le Seigneur en tout temps. Ils sentaient la puissance et la vie, qui dominaient toutes les puissances des ténèbres, et leur tiraient du bien de toute affliction, de toute tentation et de toute détresse, de sorte que, demeurant dans la vie et dans la puissance qui les avait vivifiés et qui était présente avec eux, pouvaient tenir pour une joie parfaite quand ils tombaient dans diverses tentations, connaissant l'avantage qui leur en reviendrait, et possédant leurs âmes dans la pure patience, jusqu'à ce que Dieu l'accomplisse pour eux. Une entrée leur était accordée dans le royaume éternel, ils recevaient le royaume inébranlable, et y avaient communion avec le Père et avec le Fils, et dans la lumière éternelle, le sang courait dans leurs veines, les purifiant et les gardant purs, et ils s'asseyaient avec Christ dans les lieux célestes, chacun dans la demeure particulière que Dieu avait bâtie en eux par son Esprit. La crainte du Dieu vivant était mise dans leur cœur, l'Esprit du Seigneur était au-dedans d'eux, et là sa loi était écrite et lue dans l'Esprit. et les trésors de son royaume étaient ouverts par la clé de David dans la main de l'Esprit, et leurs âmes avaient en mesure une vraie satisfaction et du repos, et avançaient vers la plénitude. 5. Il n'y a pas de repos pour l'âme à goûter dans l'Évangile d'en bas de l'extérieur du joug. Ceci demeure à jamais, ce qui met sous le joug ce qui voudrait être à l'aise et en liberté hors de la vie, voilà le vrai repos de l'âme, il n'y en a pas d'autre, et c'est sous le joug qu'il est goûté, et non autrement. Ce n'est que lorsque ce qui doit être soumis au joug est consumé et détruit que ce n'est plus un joug, mais une liberté parfaite. Mais la même chose qui est la liberté est le joug, et sous le joug, on goûte la douceur, l'aisance, la légèreté, la possession sûre de la vie. Remarquez donc ceci avec diligence, le joug n'est pas une chose et la liberté une autre, mais ils sont une seule et même chose. La puissance de Dieu, la vie éternelle, la pure lumière, la nature divine est un joug pour la nature transgressante, mais elle est l'aisance, le plaisir, le repos, la paix, la joie, le centre naturel de ce qui est né de Dieu. Maintenant, à l'âme qui autrefois a senti des élans vers le Seigneur, et en qui il reste encore quelques vrais soupirs après sa présence vivante et après la sensation de sa vertu éternelle dans le cœur, j'ai ceci à dire, où êtes-vous? Êtes-vous dans le repos de votre âme? Sentez-vous la vertu et la puissance de l'Évangile? Sentez-vous l'aisance qui vient du bras vivant, au cœur qui y est uni dans la lumière de l'Évangile? Votre labeur pour la vie est-il, en bonne mesure, arrivé à son terme? Et sentez-vous la vie et la puissance affluer en vous depuis la fontaine libre? Le fardeau a-t-il vraiment été ôté de votre dos? Trouvez-vous le captif racheté et rendu libre du pouvoir du péché, et la captivité brisée, et celui qui vous menait captif loin de la vie et de la puissance éternelle, maintenant mené captif par la vie et par la puissance rédemptrice qui est éternelle, avez-vous trouvé cela, ou l'avez-vous manqué? Que votre cœur réponde. N'imaginez pas et ne dissipez pas par des paroles le repos et le salut de votre âme. L'état évangélique est un état de substance, un état de jouissance de la vie, un état où l'on sent la présence et la puissance du Seigneur dans son pur Esprit Saint, un état de pansement, un état de guérison, un état de connaissance du Seigneur et de marche avec lui dans la lumière de son propre Esprit. Il commence par un doux, puissant attouchement de vie, et il y a une croissance dans la vie, dans la puissance, dans la vertu divine, dans le repos, la paix et la satisfaction de l'âme en Dieu, à recevoir et à attendre chaque jour. Êtes-vous ici, dans la puissance vivante, dans la vie divine, unis à la source de vie, puisant avec joie l'eau de vie au puits de vie, ou êtes-vous sec, mort, stérile, sans sève, ou au mieux, insatisfait, pleurant après ce qui vous manque? Eh bien, vous qui êtes sec, mort, stérile, comme privé du Dieu vivant, qui ne connaissez pas l'éclat de son soleil, ni la descente de ses rosées d'en haut sur ses tendres plantes, ni le soin, la diligence et la circonspection du cultivateur sur sa culture, oh, attendez la vertu vivifiante, les visitations de l'aurore venues d'en haut. Afin que vous soyez vivifiés de nouveau pour Dieu, que vous trouviez sa vie vous visiter, son esprit souffler sur vous, que la semence de Jacob soit relevée en vous pour sortir de cet état stérile, oui, hors de cette terre de ténèbres et de l'ombre de la mort, vers la terre où la vie prospère, et distribue chaque jour une nourriture et un rafraîchissement abondant à toute sa descendance, qui est instruite à l'attendre et à s'en nourrir dans le lieu saint, hors de la vue de l'œil de la sagesse charnelle. Vous qui haletez encore après le Dieu vivant, sur qui les soupirs de vie demeurent encore, qui restez intérieurement insatisfaits faute de la présence du Seigneur, et dont les cœurs pleurent et se lamentent encore profondément après lui. Oh! Considérez quelle est la cause que vous ayez pleuré si longtemps, cherché si longtemps, et qu'à ce jour encore vous demeuriez éloigné de la chose que vous pleuriez et recherchiez. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. La voie de l'incrédulité est large, oui, la voie de la croyance est large aussi. Il est facile pour un homme de croire au sujet de Christ, ou en Christ, comme son cœur peut l'appeler, de telle manière qu'il manque la nature de la vraie foi et les doux et bienheureux effets qui l'accompagnent. Il est facile aussi de manquer le joug, de prendre un mauvais joug, dans la volonté propre, la sagesse propre, l'interprétation propre des Écritures, ou de se détourner aisément du vrai joug, mais il est difficile de venir sous le joug de la vie, et difficile d'y demeurer. De plus, il est facile de se tromper. Un homme peut lire et entendre de telle sorte qu'il soit toujours en train d'apprendre et ne parvienne jamais à la connaissance de la vérité, n'arrive jamais à la vérité telle qu'elle est reçue et tenue en Jésus, mais peut acquérir et retenir la connaissance de la vérité comme l'homme, dans sa sagesse, peut l'acquérir et la retenir depuis la lettre. Et si un homme manque ainsi la voie, comment peut-il atteindre la fin? Si un homme ne commence pas dans la vraie foi, dans la foi vivante, comment peut-il atteindre le repos auquel seule la vraie foi conduit? Si un homme manque le joug, ou ne demeure pas constamment sous le joug, comment peut-il rencontrer la vraie aisance et le vrai repos qui s'y trouvent, et que lui seul peut administrer? Si un homme n'apprend pas la vérité correctement du vrai maître, comment pourra-t-il jamais récolter les effets de la vraie connaissance? Ah, pauvre cœur! Il ne suffit pas d'avoir des soupirs après Dieu, ni d'être très diligent et industrieux, soit dans des ordonnances extérieures, soit dans des exercices intérieurs de l'esprit. Mais la voie de l'Évangile doit être frayée par Dieu, et l'âme y être conduite par lui, et être préservée chaque jour par lui. Et elle doit marcher dans le sentier qui lui est propre, sinon elle peut pleurer et crier tous ses jours sans jamais rencontrer cette jouissance de Dieu et cette satisfaction en Dieu qu'elle attend et réclame. C'est une chose que de pleurer après un état évangélique, c'en est une autre que d'y être conduit par la puissance. De tout mon cœur, je reconnais ceux qui pleurent après Dieu et sentent son manque, où qu'ils soient, mais je sais certainement ceci, ils ne pourront jamais parvenir à sa jouissance que dans ce sentier vivant dont les Écritures rendent témoignage comme étant en celui qui est la vie, et vers lequel son esprit se trouve maintenant manifestement conduire. Béni soit son nom. Question : mais comment mon pauvre âme, qui a longtemps pleuré et gémi, et a été malade d'amour après mon bien-aimé, sans jamais parvenir à une jouissance satisfaisante de lui, peut-elle en venir à marcher dans son sentier, afin que je rencontre et que je me couche dans la puissance de vie et de salut que l'Évangile présente aux vrais croyants, et dont j'ai depuis longtemps senti le profond besoin. Réponse : vous qui voudriez jouir de votre bien-aimé, sentir le repos de son Évangile, et marcher dans ce sentier qui y conduit, attendez d'apprendre de l'Esprit les choses suivantes. 1. Sachez ce que c'est qui doit marcher dans le chemin de la vie, et qui seul, en vérité, est capable d'y marcher. C'est ce qui gémit et ce qui pleure, ce qui est engendré de Dieu en vous. Le chemin de la vie est pour la semence de vie. La vraie connaissance de la voie, avec la marche dans la voie, est réservée à l'enfant de Dieu, au voyageur de Dieu. Demeurez donc dans la régénération, demeurez dans la naissance, ne soyez rien de plus que ce que Dieu a fait de vous. Renoncez à votre propre vouloir, renoncez à votre propre course, renoncez à votre propre désir de savoir ou d'être quelque chose, et descendez jusqu'à la semence que Dieu sème dans le cœur, laissez-la croître en vous, être en vous, respirer en vous, agir en vous, et vous trouverez par une douce expérience que le Seigneur connaît cela, l'aime et le reconnaît, et le conduira à l'héritage de la vie, qui est sa part. Et à mesure que vous prenez sur vous la croix, et que vous permettez qu'elle vous couvre et devienne un joug sur vous, vous serez renouvelé, et vous jouirez de la vie et de l'héritage éternel en cela. 2. Sachez dans quelle lumière il faut marcher, à savoir dans la lumière de l'Esprit. C'est là que l'enfant naît, non dans les ténèbres de Satan, ni dans les plus hautes transformations en ressemblance de lumière, qui ne sont que ténèbres, ni dans la lumière de la sagesse de l'homme, de la connaissance acquise par recherche, ou de la compréhension. Et c'est là qu'il marche, dans cette lumière, il fait chaque pas et chaque mouvement vers le pays de la vie. Ne retenez donc aucune connaissance en dehors de l'Esprit. Si quelque connaissance des choses de Dieu est tenue hors de la fraîcheur de l'Esprit, elle se révèle aussitôt morte et inutile. L'Israël spirituel ne peut voyager sans une lumière spirituelle, laquelle lumière est éternelle et incompréhensible, et ne peut être saisie par l'Esprit de l'homme, mais brille fraîchement chaque jour dans l'Esprit renouvelé, et ainsi le rassemble quotidiennement de plus en plus au-dedans d'elle-même, le comprenant en elle-même, et le préservant dans sa propre pureté, clarté et splendeur. Voilà ce qui en a perdu beaucoup. Saisir une lumière venue de l'Esprit, transplanter l'image des choses divines dans le principe terrestre, et là les retenir dans la partie terrestre, y devenir sage par elle, et s'en servir de là comme l'homme le juge bon, sans voir la nécessité de dépendre de l'Esprit pour une lumière et une vie fraîche chaque jour, pour chaque mouvement spirituel. Ainsi le voyageur en vient bientôt à perdre le vrai chemin, et au lieu de celui-ci, voyage sur une route formée par sa propre sagesse, et ainsi bien qu'il lui semble faire un grand progrès, il ne fait en réalité aucun vrai progrès mais s'égare énormément. Tout ce terrain, il lui faut ensuite le refaire en sens inverse, afin de revenir à la vérité de son état antérieur, ou d'avancer dans le vrai voyage. 3. Sachez et demeurez attachés à la puissance, qui seule a commencé toute œuvre véritable dans le cœur, qui seule peut la préserver, et qui seule peut la mener à bien. Christ a été fait prêtre non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable, et chaque sacrificateur sous lui, ce que tout vrai croyant est ainsi fait par la même puissance. Les puissances des ténèbres sont continuellement à portée, auxquelles rien ne peut tenir tête, encore moins marcher en sûreté sans être dans cette puissance qui est au-dessus d'elle. La première venue à Christ doit être dans la puissance de l'attrait du Père, et aucune foi par la suite n'est de la vraie nature, ni ne servira l'âme dans son progrès et son voyage vers la vie, si elle ne demeure pas dans la même puissance et n'en procède pas. Ainsi, prendre le joug et tirer sous ce joug doit se faire par la puissance de la vie nouvelle, et ainsi doit être aussi l'apprentissage du disciple. Comme le Maître enseigne, dans la puissance de l'Esprit, les choses qui seules peuvent être vues avec l'œil nouveau, entendues avec l'oreille nouvelle et reçues dans le cœur nouveau. Ainsi l'élève doit apprendre et recevoir ses leçons de vie dans la même puissance. Qu'un disciple de Christ soit hors de l'ombre de la puissance, qu'il croit hors de la puissance, qu'il marche hors de la puissance, qu'il agisse hors de la puissance, il est hors de ce en quoi sa vie consiste et où seul se trouve sa préservation, Et à combien est-il alors exposé aux chutes, aux meurtrissures, aux pièges et aux tentations de l'ennemi? 4. Veillez contre la sagesse égoïste, à chaque pas de votre croissance et à chaque mouvement spirituel, afin qu'elle ne s'interpose pas entre vous et votre vie, afin qu'elle ne vous trompe pas par une ressemblance, une ombre, faisant paraître celle-ci plus agréable à l'œil que la substance. À chaque pas de votre route, elle vous tendra des appâts, et il est facile que la tromperie entre en vous à tout moment, et que cette sagesse se dresse en vous sous l'apparence d'une sagesse spirituelle, à moins que le Seigneur ne vous préserve avec tendresse et puissance, et si elle prévaut, elle vous détournera du chemin de la vraie sagesse. Elle vous jouera un tour avec une foi fausse au lieu de la vraie foi, avec une prière fausse au lieu des soupirs du vrai enfant, avec de la diligence et du zèle dans votre fausse voie, au lieu du vrai zèle et de la vraie diligence. Oui, elle vous précipitera sur le chemin de l'erreur, fermant en vous l'œil qui devrait voir, et endurcissant votre cœur contre votre ami intime. Et ainsi trompé, vous pouvez être aussi zélé, en votre temps et en votre génération, contre la vérité que les Juifs l'étaient en la leur, et aussi certainement que ceux qui mirent Christ à mort et persécutèrent ses apôtres, tout en exaltant les anciens prophètes, aussi certainement vous, sous cette tromperie, ne pourrez qu'agir contre la dispensation et la manifestation présente de l'Esprit de Christ, et vous persécuteriez soit les prophètes, soit les apôtres, soit Christ lui-même, si c'était aujourd'hui leur temps de paraître comme ils le firent autrefois. 5. Que rien ne juge en vous, concernant votre propre cœur, ou concernant les autres, ou concernant quelque voie ou vérité de Dieu, sinon seulement ce qui est engendré de Dieu dans le cœur. Que la lumière dans laquelle vous êtes engendré à Dieu, et qui brille sur ce qui est engendré de lui, soit le seul juge en vous, et alors vous ne pourrez pas vous tromper dans votre jugement. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas prompts à juger, retirez-vous vers la vie, attendant toujours l'apparition et les ouvertures de la vie. Quelques pas faits dans la vie et la puissance de Dieu sont beaucoup plus sûrs et plus doux qu'une progression hâtive dans un esprit hâtif et en avant. En vérité, voilà la vraie religion, sentir Dieu commencer l'œuvre et l'attendre pour qu'il la poursuive. Sentir l'Esprit de Dieu commencer quelque chose dans le cœur, attendre de lui davantage de son esprit et marcher avec lui dans son esprit, comme il lui plaît de vivifier, conduire, attirer et fortifier, voilà la religion spirituelle et véritable. Et il n'y a aucun devoir ni aucune ordonnance de l'Évangile en dehors de l'Esprit. Mais il est aisé d'exalter et d'observer la ressemblance de l'une des lors de l'esprit, observation dans laquelle un esprit étranger entre facilement, et alors ce qui était de Dieu dans le cœur se flétrit. Oh, attendez le Seigneur, afin qu'il vous donne de comprendre ces choses, car l'apostasie d'avec Dieu est très profonde, et plus provocante parmi les protestants que parmi les papistes, oui, la plus provocante là où elle est la plus intérieure et spirituelle. Question, mais comment puis-je connaître et demeurer attaché à ce qui est engendré de Dieu ? À la lumière et à la puissance du Seigneur, et tenir abaissée la sagesse charnelle et la compréhension au sujet des choses de Dieu. Réponse : Lorsque Dieu engendre la vie dans le cœur, il y en a une saveur dans votre vase, et une chaleur et une vertu secrète et vivante que le cœur sent en quelque mesure, et par lesquelles elle est reconnue. Tenez-vous bas dans la crainte du trésor, afin que ce levain croisse et augmente en vous. C'est le levain du royaume, c'est ce qui doit changer votre cœur et votre nature, et rendre votre vase qui peut-être a été longtemps et fortement corrompu, apte à recevoir le trésor du royaume. Or, tant que la saveur est sur vous, tant que la vertu de la vie est fraîche en vous, vous trouvez quelque force vers Dieu, avec un petit goût et un certain discernement des choses de son royaume. Connaissez votre faiblesse, et n'allez pas au-delà de la mesure, mais, dans ce que vous avez reçu, inclinez-vous devant la plénitude, adorez Dieu en cela, et soyez patient dans ce qu'il vous exerce à supporter, attendant davantage de lui. Et quand la nuit vient sur vous, et que vous êtes peut-être en perplexité, manquant la saveur et la présence de la vie, et ne sachant comment les retrouver, soyez patient et paisible, et vous trouverez des soupirs après une visitation nouvelle, et un esprit doux, humble, brisé devant le Seigneur. Vous verrez que vous ne pouvez rien faire pour recouvrer sa présence, non, vous ne pouvez même pas l'attendre, ni soupirer après lui, sans son aide, mais il est proche du pauvre, proche du brisé, proche de l'affligé, proche de l'impuissant. Ne pensez pas, par vos cris et rugissements charnels, réveillez votre bien-aimé avant son temps, mais, dans la nuit de la détresse, cherchez quelque chose qui puisse apaiser et soutenir votre cœur jusqu'au prochain lever du jour. Le soleil se lèvera, qui dispersera les nuages, et celui qui est près de vous vous donnera d'espérer que vous verrez encore Dieu, et que vous retrouverez les vivifications et les conduites de son esprit. Et au jour de sa puissance, vous trouverez la force de marcher avec lui, oui, au jour de votre faiblesse sa grâce vous suffira, et il vous nourrira dans sa vie par son pur esprit, vous faisant croître sous son ombre, et il vous apprendra à vivre, à parler, à vous mouvoir et à agir à partir du principe, et dans le cadre de sa lumière et de sa vie éternelle. Seulement, ne soyez pas sage au point de saisir la notion des choses dans la partie terrestre, où la mythe peut corrompre, et où le voleur peut percer et dérober, mais connaissez le trésor divin, où toutes les choses de la vie sont amassées par l'esprit et transmises à l'enfant vivant avec une vie fraîche selon son besoin. Ainsi, votre cœur étant gardé près de Dieu, et vos sens spirituels étant continuellement exercés au sujet des choses de Dieu, il vous sera aisé de connaître la voix du berger et de distinguer le son de l'esprit dans votre propre cœur. Et ce qui éprouve les esprits et les mouvements dans votre propre cœur vous donnera aussi le discernement de la vérité et de l'erreur au dehors, juste dans l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan chez les autres, de sorte que vous serez capable d'éprouver non seulement des paroles mais des esprits, devenant famille. Et ainsi votre vie, votre croissance, votre chemin seront doux, sûrs, clairs, certains, démonstratifs dans l'esprit et au-delà de tout raisonnement de chair et de sang, en vous-même ou chez les autres. Le commencement de la vie éternelle est dans un principe plus élevé que l'homme ne peut atteindre. La sagesse et la connaissance humaine des choses de Dieu sont bestiales en comparaison. À mesure que vous entrez dans ce principe, que vous y demeurez et y croissez, vous êtes au-delà du jugement de l'homme, et vous êtes capable de juger l'homme et de mesurer tout son parcours comme d'un empan. Mais vous êtes tout à fait hors de sa portée dans le moindre de vos mouvements, pensées ou actions, j'entends ce qui procède de la vie et sont compris en elle. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.